RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, le maître Yodu, l'athlète membre de l'équipe de France, notre mentaliste. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît,
ça va ? Je t'appelais Mesmer, c'est vrai, c'est excellente vanne.
Ah ouais, bah ouais, t'as raison, ouais.
Bon, on remercie tous les fidèles auditeurs d'RMC Running pour le soutien et voilà, la fidélité tout simplement. Vous nous suivez sur les différents réseaux sociaux, le club RMC Running sur Strava, le compte Instagram. Vous postulez pour le record du monde, le tirage au sort sera effectué fin mars. Donc n'hésitez pas, il vous reste quelques jours. Ça approche. On communiquera évidemment les noms des heureux élus, donc n'hésitez pas, c'est un beau projet et on va vous accompagner jusque là. Une thématique qui va tous vous intéresser aujourd'hui, c'est la visualisation. Est-ce un élément clé pour progresser et atteindre ses objectifs en course à pied ? Pour en parler avec nous, on a convoqué un spécialiste, Yodu. Ancien arbitre professionnel en Ligue 1 pendant 10 ans, il est devenu préparateur mental. On va recevoir Amaury Delheureux, vous allez voir une personnalité passionnante.
Il visualisait les fautes.
Voilà, il visualisait les cartons rouges. Paf, allez, on pourra en parler avec lui, mais un métier sous forte pression. Hein. Voilà, on pourra en parler rapidement, mais c'est vrai que c'est un métier très particulier. Et le bon plan matos est offert par Garmin cette semaine, marque de référence pour les montres connectées. A gagné cette semaine une Garmin Forerunner 165, accessoire du quotidien qui vous guidera dans votre pratique. On sera avec Mélanie Debon, elle est chef de produit chez Garmin, elle nous expliquera tout ça. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, fermez les yeux, on travaille le mental aujourd'hui.
On parle beaucoup de préparation, de plus en plus de préparation mentale pour les sportifs de haut niveau.
Mais quelqu'un qui se faisait commenter, vous voyez un peu de qui je veux parler, cet homme c'est monsieur...
Amaury Delheureux.
À la base j'ai une formation de prof de PS.
Originaire de la région Aquitaine, de Bordeaux exactement.
Aujourd'hui je n'ai que du positif à retirer de ma carrière.
Ancien arbitre, parce que jeune retraité à 45 ans, vous allez voir qu'il y a un autre métier. Donc tu es devenu préparateur mental.
C'est tout ce qui est le côté préparation mentale, tu bosses avec un ancien arbitre de Ligue 1. Amaury Delheureux.
Oui, en fait, c'est une suite logique. Je me suis aperçu que le sport professionnel m'avait amené des questionnements par rapport à ma propre introspection, ma propre connaissance de moi-même. Et c'est quand même une sacrée école de la vie de le faire sur un terrain de football.
C'est l'histoire de la vie.
Eh oui, le cycle éternel. Eh oui. Il est là avec nous, notre préparateur mental, Amaury Delheureux, ancien arbitre de Ligue 1. Bonjour Amaury.
Bonjour Benoît, bonjour Yoann, bonjour à tous les auditeurs. Et vous avez été chercher des pépites tout de suite.
Ah bien sûr, voilà, c'est la plus-value d'RMC Running et de Geoffrey Charpie. Voilà,
tous les dossiers ressortent. Hein.
Exactement. Deux légendes girondines réunies, c'est pas beau ça quand même. Ça c'est quelque chose. Amaury, est-ce que tu connais Yoann d'ailleurs ?
Pas personnellement, je l'ai entrevu par certains de ses exploits, effectivement. Et puis la course à pied, c'est quelque chose qui me passionne également.
Eh oui, parce que tu as un profil très particulier. Bon, Yoann, toi, tu connais forcément Amaury, parce que tu as des dingues de foot et de Ligue 1, donc tu l'as forcément vu officier pendant 10 ans.
Je l'ai forcément insulté à un moment donné.
Oui et non, parce que... Bah non, mais Amaury,
ça y est.
Non, mais t'as pas dû arbitrer.
Voilà, déjà des
mes supporters, exactement. Le supporterisme à deux francs.
Ben non, mais tu devais pas arbitrer les Girondins, je pense, vu que c'était ton district.
Effectivement, je suis à peu près tranquille dans ma région, puisque habitant Bordeaux, je pouvais pas arbitrer les Girondins en match officiel.
Et ben voilà, tu vois, Yodu, finalement, mauvaise langue.
Ouf, il s'en sort bien.
Alors Amaury, tu es fondateur de la société Optimium Performance, donc tu t'es vraiment spécialisé dans la préparation mentale. On le disait, 10 années de haut niveau dans l'arbitrage, habitué à bosser sous pression, je suis allé sur ton site et tu as indiqué que vous preniez 300 prises de décision par match sur 90 minutes. La pression, ça te connaît, quoi. C'est quelque chose que tu as pratiqué tout au long de ta carrière, quoi.
Ouais, effectivement, elle fait partie inhérente de cette activité à partir du moment où tu dois prendre des décisions impactantes sur un match, en te rappelant que les non-décisions, c'est-à-dire les non-coups de sifflet, sont aussi évidemment des décisions. Donc en fait, toutes les 10-15 secondes, parfois plus, effectivement, ça s'enchaîne. Des décisions plus ou moins faciles, des décisions incontournables qui impactent le scénario de la rencontre, et des derrière, tu n'en as pas fini avec ta décision. Hein. Tu dois la vendre, tu dois la faire comprendre, tu dois l'expliquer, tu dois la manager avec tous les acteurs. Donc effectivement, quelque chose qui a à voir avec la pression interne, on en va en parler, et puis la pression extérieure que te mettent les autres acteurs sur toi-même.
Et tu précises, et tu as raison d'ailleurs de le dire, un des métiers les plus détestés au monde. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de te faire siffler par un stade, ça doit être... C'est une expérience fou, folle.
Bah, tu savais que quand tu rentrais dans l'arène, quoi qu'il arrive, tu allais avoir la moitié du public ou les trois quarts du public qui, à un moment donné, allaient être contre les décisions que tu allais prendre. Donc, il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça qui, effectivement, t'exposent aussi vite dans un laps de temps aussi court. Quoi.
Moi, j'imagine rentrer au bureau, me faire siffler par tout le monde.
C'est ça.
Bon, avant de refermer la page de l'arbitrage, juste ton regard, parce que tu le sais, donc RMC Running, c'est le podcast de course à pied d'RMC, mais RMC, c'est une radio qui est radio du sport et radio passionnée de foot. Juste ton regard sur la crise qui touche l'arbitrage actuellement. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas forcément initiés que il y a beaucoup de remous en interne au niveau de l'arbitrage. Stéphane Lannoy, le responsable des arbitres pro, a été licencié. C'était la guerre avec Anthony Gauthier, le responsable technique de l'arbitrage. Une nouvelle formule qui n'a pas fonctionné. Quel regard tu portes, toi, en tant qu'ancien arbitre professionnel de Ligue 1?
Un regard un peu plus apaisé que l'actualité est comme d'habitude, parce que c'est notre quotidien. Hein. Tu vois, je parle encore au présent, alors que ça fait un an et demi que j'ai arrêté. J'ai envie de te dire que ce sont des cycles, on les oublie, mais on en a vécu d'autres. Les personnes passent, il faut essayer d'améliorer ce qui peut être amélioré. Mais je n'oublie pas, dans aucun cas, c'est la période chaque année qui est aussi propice, même si celle-là semble un peu durer, à la contestation de toutes parts, parce qu'on est en fait championnat, à 10-12 journées de la fin du championnat, et tu as des clubs qui ne sont pas là où ils aimeraient être dans le classement, d'autres qui se révèlent alors qu'on ne les attendait pas. Donc tout ça fait partie, si tu veux, du cycle normal d'une saison de football. En tout cas, mon regard extérieur, c'est plutôt celui-là.
Ok. Eh ben, merci pour ces précisions. Toi, en plus, tu as connu l'arbitrage sans le VAR, donc voilà, tu es...
J'ai fait les deux, avec et sans.
Ça fait les deux, voilà, c'est sympa, au moins tu as connu la transition. Parle-nous de ton rapport à la course à pied déjà. Est-ce que tu cours aujourd'hui encore ?
Même si je suis un petit peu blessé actuellement après une gamelle en surf dans ma région d'origine, oui, effectivement, la course à pied, tu sais, quand ça a été le fondement de ta pratique pendant 30 ans sur les terrains de foot, et puis évidemment une pratique intense avec des efforts répétés sur un terrain de football pendant 95 minutes minimum, derrière tu as quand même la fibre. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aimais avant et que je continue à aimer, et donc je me reprojette dans quelques défis que je m'étais lancé il y a quelques années dans ma carrière, qui sont de l'ordre de l'ultra-endurance et du triple effort très très long. Voilà.
Ah oui, sans le siffler en plus, donc c'est plus facile.
Il vaut mieux pas l'avaler, sinon ça va te gêner. Pour toi,
ouais. Non, mais c'est beau, en tout cas, de beaux défis sportifs qui t'attendent. Tu surfes, toi, Johan? Parce que c'est vrai que t'es de la même région, mais non, t'aimes vraiment pas l'eau, toi, t'as un problème avec l'eau.
Laisse-moi tranquille, je suis un coureur, je suis un terrien, il faut que je sente la terre.
Et voilà. Donc, on a parlé de cette reconversion à Maury Delerue, ancien arbitre, aujourd'hui préparateur mental. On a reçu Gabriel Thual, le champion de France du 800 mètres que tu accompagnes. Est-ce que tu as d'autres athlètes comme ça que tu suis au quotidien dans une préparation d'une échéance importante comme les Jeux Olympiques?
Ouais, j'en ai plusieurs, et puis effectivement, ce sont des athlètes qui préparent les Jeux, mais désolé de te couper l'herbe sous le pied, mais à part Gabriel qui en parle explicitement, les autres ne m'ayant pas autorisé à en parler ce matin, t'imagines bien qu'il y a des choses actuellement dans l'état de la prépa mentale qui fait que des gens en parlent ouvertement pendant que d'autres ne souhaitent pas pour diverses raisons. Donc effectivement, j'ai plusieurs dossiers sur le feu, et l'approche des Jeux est quand même hyper important dans un contexte anxiogène. Évidemment.
Mais c'est super. Enfin, j'imagine, toi, le défi que c'est aussi, et le bonheur que ça doit procurer d'accompagner comme ça des athlètes hors du commun jusqu'à une échéance aussi importante. C'est fantastique.
Écoute, je vais te faire une confidence. C'est sûr que je ne m'attendais pas à devoir déjà préparer une échéance comme les Jeux Olympiques. En même temps, mon positionnement, puisque j'arrive du haut niveau, a tout de suite été de me dire, j'ai vécu les problématiques du haut niveau en termes de pression, de gestion émotionnelle, pratique mentale, etc. Donc mon positionnement, ça va être d'aller chercher les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, pour évidemment recentrer sur les problématiques que j'ai connues. Et donc je me retrouve effectivement à être au quotidien avec ce genre de sportifs-là, et c'est hyper motivant, bien sûr.
Ah ouais, c'est sûr. Félicitations en tout cas. On va attaquer la thématique du jour, sur la visualisation, mais juste rappeler en préalable que Johan, toi, t'es pas un adepte de ce travail mental. C'est pas une chose dont tu ressens le besoin. C'est vrai que toi, tu te sens assez armé pour pouvoir affronter les défis qui t'attendent régulièrement. En revanche, j'imagine que dans ton entourage, tous tes potes athlètes, il y en a qui doivent avoir recours comme ça à des préparateurs mentaux.
Ah, c'est ça, chaque personne, chaque coureur a sa propre sensibilité. Et effectivement, j'ai des potes qui ont travaillé avec des sophrologues parce qu'ils étaient stressés en course et qu'ils avaient besoin d'être un peu canalisés. Il y en a d'autres, c'est plus de la prépa mentale parce qu'ils avaient des blocages et qu'ils n'arrivaient pas à passer certains caps. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Moi, je l'ai souvent dit ici, c'est vrai que moi, je n'ai jamais eu... pas l'envie, mais le besoin et la nécessité de passer, de me faire accompagner là-dessus, parce que j'arrivais toujours à plus ou moins trouver les clés pour basculer du bon côté. Mais c'est quelque chose que je comprends tout à fait, qui est très important dans une carrière d'athlète de haut niveau. Et aujourd'hui, on peut plus facilement en parler. Et plus facilement se faire accompagner. Il y a moins le côté à l'époque où aller voir un prépa mental, c'était aller voir un psy parce que t'avais des problèmes, tu vois, c'était un peu vu comme ça. Même les entraîneurs perso n'étaient pas pour qu'un nouveau maillon t'entre un nouveau maillon dans la chaîne, en fait. T'as déjà le kiné, t'as déjà le médecin, t'as déjà le coach, des fois t'as le prépa physique, t'as l'athlète, t'as le petit copain de l'athlète ou la petite copine de l'athlète. Enfin, il y a déjà du monde dans la famille. Donc, en fait, tu rajoutes encore un maillon. Donc, des fois, il y avait des coachs qui n'étaient pas forcément ouverts à ça parce qu'ils estimaient qu'eux pouvaient faire le taf ou autre. Mais effectivement, aujourd'hui, et c'est très bien qu'il y ait une place pour les gens comme Amaury, ouais. Parce que certains en ont vraiment besoin. Ouais.
Et c'est intéressant parce qu'on a reçu donc Gabriel Tual qui bosse avec toi. Est-ce que tu as un contact aussi direct avec le coach d'athlée de Gabriel Amaury?
Ouais, c'est évidemment avec Bernard Maussan, son entraîneur, que les runners doivent connaître, un des responsables du demi-fond au niveau de la Fédé. Et effectivement, dans l'écosystème d'un sportif, dans la relation entraîneur-entraîné, il y a des choses qui se passent, qui existent avant que la préparation mentale arrive auprès de l'athlète. J'ai bénéficié avec Bernard de quelqu'un qui était ouvert, qui a voulu attendre de voir, qui a voulu comprendre et qui a accordé sa confiance au travail que je fais avec Gabriel, sans être évidemment interventionniste par rapport à ça. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui, hein, après 2 ans, que cette relation que moi j'ai avec l'entraîneur de Gabriel, elle est aujourd'hui nécessaire. Ouais. Au début, elle ne l'était pas forcément, et tu as beaucoup de sportifs qui font de la préparation mentale en dehors du cercle justement de leur entraîneur, de leur staff. Pensez évidemment au sport collectif, par exemple, hein, où un joueur va aller à l'extérieur de son club. En ce qui concerne Gabriel, ça a été rapidement une donnée qu'on a décidé ensemble. Et aujourd'hui, avec Bernard, c'est, on va dire que c'est complémentaire. Chacun, évidemment, selon ses prérogatives, mais je trouve que ça matche très très bien tous les trois.
Allons-y sur le thème du jour, la visualisation. On avait déjà abordé cette notion lorsqu'on avait fait des épisodes consacrés à la préparation mentale. Tout simplement, Amaury Delury, qu'est-ce que c'est que la visualisation quand on parle de prépa mentale?
Alors, on va tout de suite essayer de circonscrire bien le sujet, bien les choses. D'abord, l'imagerie mentale, l'imagerie motrice de manière globale. Tu vois, c'est le fait d'utiliser tous tes sens, les 5 sens en particulier, pour que tu crées ou tu reproduises une expérience dans ton esprit, d'accord ? Et la visualisation, c'est l'utilisation d'un des 5 sens le plus répandu, le plus facile, ici évidemment la sensorialité visuelle, pour faire ce travail-là, d'accord ? Donc effectivement, dans le langage courant, la visualisation s'associe à l'imagerie mentale, mais normalement l'imagerie mentale est quelque chose de plus large, puisqu'on utilise aussi des images, des sensations corporelles, auditives, gustatives, olfactives, etc. D'accord ? Mais la visualisation, ça parle au grand public, ça parle aux sportifs, c'est le fait d'utiliser des images motrices visuelles pour des objets, des personnes, des mouvements, ce que tu veux. D'accord ?
Est-ce que ça s'adresse à tous ou seulement aux coureurs réguliers ? Est-ce que tout le monde peut le pratiquer ?
C'est totalement accessible à tout le monde, c'est totalement gratuit, c'est totalement facile et c'est pas nuisible. Pourquoi ? Parce que j'entendais même Johan qui disait qu'il n'avait pas eu besoin, à juste titre, de se faire accompagner, pas ressenti le besoin. Mais je suis sûr que de lui-même, Johan, il fait de la visualisation à partir du moment où tu te lèves le matin et tu ouvres les yeux, tu as des pensées, tu as des émotions, tu as des sensations et tu en utilises certaines, tu es victime d'autres. Il y a une espèce d'inconscient là-dedans ou de conscience. Et évidemment, on est tous aux prises avec nos pensées, nos émotions, nos sensations. L'objectif, c'est de les orienter. Et donc, ici, de les orienter, par exemple, par un travail visuel au quotidien, en direction de n'importe quelle tâche de ta vie quotidienne. Voilà. Mais évidemment, ici, on va parler des sportifs.
Et ça dépasse le cadre du sport. Ça aussi, c'est intéressant, parce que tu peux l'utiliser pour d'autres situations de la vie courante, quoi.
Ah bah, tu sais, il y a aujourd'hui des grands dirigeants, cadres ou managers d'entreprises qui font de la prépa mentale, qui font de la visualisation, qui vont imaginer leurs réunions, leurs prises de parole, leurs conférences, qui vont s'y préparer et qui vont évidemment utiliser les mêmes mécanismes que les sportifs font avant une grande échéance.
Johan, toi, tu fais un peu de travail de respiration, de méditation. Est-ce que tu fermes un peu les yeux? Est-ce que tu fais ça quotidiennement, de manière hebdomadaire? Est-ce que tu as des petits rituels comme ça?
Non, c'est pas plutôt... c'est pas hebdomadaire, c'est pas rituel. Je vais vous parler d'un exemple précis que j'ai connu... il y a l'année dernière quand j'étais blessé. Tu vois, moi, typiquement, mon fond d'écran de téléphone, c'est le fond d'écran classique d'Apple. Il n'y a rien, tu vois. C'est,
ah ouais, tu ne mets même pas une photo, toi.
Non, c'est la lune. Tu vois, c'est la Terre même. C'est la Terre et en mode nuit, c'est la lune.
Tu pourrais mettre un RMC Running quand même. Hein,
ouais, c'est vrai. Mais l'année dernière, du coup, j'étais blessé pendant un long moment quand vous avez suivi ma préparation. Oui. Et à un moment donné, je sentais que j'arrivais plus à me projeter là où je voulais. Tu vois, je sentais que j'arrivais plus à un moment donné à me dire « Ouais, je ne vais pas y arriver, tu vois. » Et donc, en fond d'écran, je me suis remis, moi, en train de courir au marathon de Paris, là où j'avais fait ma perf de 2h09, tu vois, qui était pour moi un grand moment de ma carrière et un moment donné, ce moment que je voulais revivre. Et donc, je me suis remis cette photo sur mon téléphone pour me dire, voilà, tu l'as fait il y a quelques mois, tu peux le refaire, tu peux revenir à ce niveau-là dans 3-4 mois, il faut y croire et tout, tu vois. Et comme ça, tous les jours, je le voyais sur mon téléphone. Alors, bien évidemment, ma pote a vu ma photo, elle m'a dit « Ah ouais, le mec se la raconte, il se met... » Ouais, voilà, c'est ça, le mec se la raconte. Mais parce que les gens ne se rendent pas compte qu'on a un ego et que des fois, le fait de se voir comme ça, de me voir tous les matins quand je prenais mon téléphone ou toute la journée, de remémorer, repenser à ce sentiment où, bah, de plénitude, où j'étais au top, où j'avais fait 2h09 au marathon, où tout était en briquet et tout fonctionnait bien, ça m'avait fait du bien pour me relancer parce que je sentais qu'à un moment donné, je ne trouvais plus les clés pour sortir de cette blessure. Donc ça, c'est un exemple concret que j'ai mis en place perso, tu vois.
Et qu'en pense le préparateur mental? C'est un bon exercice, ça. C'est une bonne idée.
C'est un très bon exemple de Johan que j'ai aussi utilisé avec Gabriel parce qu'il a été blessé l'année dernière, comme vous le savez, il l'a raconté en pleine préparation de sa saison mondiale. Il a une chute avec une blessure idiote.
Il se pète la
clavicule. T'imagines comment tu peux, ton cerveau, tu peux dire mais c'est pas possible, évidemment, parce que un coureur, il s'attend à plein de blessures, mais pas celle-là. Et effectivement, pendant cette période-là, on a utilisé la visualisation pour aller se redonner du positif, pour revoir certaines de ses courses, parce que le sportif, par exemple, ici blessé, ça rejoint un peu ce que disait Johan, qui retrouvait plus ses sensations. Eh bien, il a besoin, ici en visualisation, de se dire... Je l'ai fait, je sais le faire, je vais le refaire. Là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est la dernière étape sur la futurisation, c'est-à-dire quelque chose, un état que tu vas aller rechercher pour après. Donc oui, c'est évidemment un très bon exemple qu'a utilisé Johan.
Ouais, parce que l'article qui a été écrit sur toi de l'excellent Romain Donneux dans l'équipe, d'ailleurs, c'était une séance de Gabriel Tual chez toi dans ta maison pour justement bosser le mental. Tu sentais qu'il était dans une période de doute et tu lui as remontré une course dans laquelle il avait vraiment perfé justement pour le remotiver et lui faire ressentir de nouveau les sensations qu'il avait connues ce jour-là et c'était important pour lui. Alors, tout simplement, est-ce que c'est adaptable en fonction du caractère de la personne avec qui tu travailles, Amaury ? Est-ce que tu as les mêmes clés, les mêmes bases avec tous les athlètes ou est-ce que tu t'adaptes à la personnalité de la personne que tu rencontres ?
Tu vas toujours adapter ta méthodologie au profilage de l'athlète et du sportif que tu as en face de toi. C'est une première pratique, une première mise en relation avec le sportif qui se base sur les premières séances, les premiers contacts, où vraiment tu dois faire la cartographie mentale de la personne que tu as en face de toi. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas toi qui le fais en tant que prépa mental, c'est lui-même qui part à la connaissance de ce qu'il a à l'intérieur, comme Johan a très bien témoigné des questions qu'il s'était posées lui-même. Et en fonction de ce profilage, tu vas utiliser tel ou tel outil avec le sportif. Tu vas en écarter certains, tu vas en utiliser d'autres. Le sportif de haut niveau, le sportif professionnel que j'accompagne, je lui dis toujours au début, dans le contrat de confiance qu'on a tous les deux, tu n'as pas de temps à perdre. Et puis, de manière indirecte, moi non plus. C'est-à-dire que les choses qu'on met en place, il faut voir si tout de suite ça apporte du concret, ça match. S'il y a des choses qui ne matchent pas pour toi, on les remplace, on les modifie ou alors on les écarte. Évidemment, ça dépend de chaque sportif. Maintenant, j'ai envie de te dire, l'imagerie mentale, la visualisation, c'est à la portée de tous. Tu as des auteurs comme Target, la Bible de la prépa mentale, si ça t'intéresse, qui te dira que, en gros, c'est un peu le couteau suisse de la prépa mentale, la visualisation. Tout le monde peut en faire. Tout le monde en fait sans savoir qu'ils en font, etc. Donc, quand même, c'est un des fondements de la prépa mentale, hein, ce travail d'imagerie et de visualisation.
Tiens, écoutons justement Gabriel Thual, champion de France du 800 mètres qu'on avait reçu, qui travaille avec Amaury sur sa méthode de préparation mentale. Écoutez.
Moi, tu vois, je travaille sur l'imagerie mentale, les ancrages,
ouais.
Tout ça. Et en fait, je les utilise dans la séance pour aller chercher le petit dixième de plus, ou la petite seconde de plus, ou le petit kilomètre heure de plus, quand je suis bien et quand je suis pas bien. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, il faut les travailler avant, parce que tu peux pas entrer en compétition et puis faire appel à ces images-là ou à la prépa mentale comme ça. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Donc je le travaille à l'entraînement via des séances de visualisation que je fais avec Amaury. Donc là, on est en présentiel. Ou alors moi, dans l'entraînement, je mets en place ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire de la cohérence cardiaque avant ou après, un retour au calme, de l'activation. Des ancrages pour faire des refocus sur une séance quand je suis pas bien, ou finalement être à 100% à 110% sur une séance. Vraiment, c'est hyper vaste.
Et ça, c'est intéressant, la cohérence cardiaque, Maître Durand, parce que toi, tu observes tes données tout de même. Est-ce que tu fais ce type d'exercice de respiration comme ça pour te contrôler? Alors, ce n'est pas forcément les mêmes méthodes que Gabriel, mais est-ce que tu as ce type d'exercice comme ça en début de séance, Johan, pour te mettre dedans et te dire, allez, il faut y aller, c'est maintenant?
Non, je ne fais pas ça. Mais par contre, avant mes entraînements, je prends, ou avant mes séances, c'est vrai que... 5 secondes, tu vois, 5-10 secondes où je suis dans ma bulle, comme si je me mettais en mode compète, tu vois. Je suis à l'entraînement, je vais m'échauffer avec mes potes, je vais rigoler, machin, truc, tu vois, normal. Tu fais les gammes, les lignes, t'es pas dedans encore, tu vois. Et d'un seul coup, je coupe avec l'extérieur et là, je parle plus. Mon coach, d'ailleurs, il doit s'ennuyer parce que des fois, quand on part sur des entraînements marathon, je lui parle pas. Pendant une heure, tu vois, pendant toute la durée de l'entraînement jusqu'à ce que ça soit le retour au calme, je lui adresse pas un mot. Tu vois, je me dis des fois, il doit se faire chier
alors
sur le vélo.
Ouais.
Parce que lui, il te donne les chronos et tout, mais il fait un monologue. Hein. Moi, je lui parle pas, je suis dans ma séance. T'es limite à pouvoir parler parce que, enfin, même sur une spé marathon, tu vois, t'es borderline. Alors, sur les séances un peu plus rapides, tu peux pas. Et du coup, ouais, j'arrive à cuter le cerveau, à mettre le cerveau sur off, et en 5-10 secondes, je souffle et je mets le cerveau en mode attelé, je parle plus à personne, et là c'est parti, et là après tu rebranches. Je rebranche après, ouais.
T'es rapide comme ça dans la vie de tous les jours pour tous les sujets, parce que ça me fait penser que 5-10 secondes pour switcher, pour mettre le cerveau off, ce qui est d'ailleurs a priori impossible pour la plupart des gens, hein, on ne peut pas modifier et éteindre toutes ces pensées. C'est très court chez la plupart des sportifs que j'accompagne, hein. Tu as des gens qui ont besoin, si tu veux, de cette bulle dont tu parles, qui ont construit progressivement avant l'échéance. Hein, 5-10 secondes, faire un switch off,
mais là, je te parle
c'est
pas
que
en
peut-être
t'as
bossé, hein, et t'as des moyens pour le faire. Hein, c'est beau, hein, c'est bien.
mais là, à l'entraînement, hein, c'est vraiment sur mes entraînements. En compétition, bien évidemment que c'est un profil un peu totalement différent. Mais ouais, enfin, ouais, je dirais qu'en 10 secondes, je peux me mettre dans ma bulle et dans ma séance, ouais.
Quel conseil, Amaury, on peut donner à tous ceux qui sont des coureurs et qui participent à différentes épreuves? Nous, on parle à des coureurs de 10 km, de semi, de marathon, des trailers. pour justement essayer de mettre en place une sorte de routine les jours de compète pour faire fuir ce mauvais stress, entre guillemets, parce qu'on parlera du rôle du stress dans un instant, mais est-ce qu'il y a un modèle applicable pour tous, une routine qu'on peut mettre en place qui peut nous aider comme ça, se projeter grâce à la visualisation et faire en sorte que la prépa juste avant la course se passe très bien?
Alors oui, je vais te donner ce qu'on dit classiquement d'une petite méthodologie d'imagerie mentale, mais à te dire d'abord que tous les sportifs, avant de mettre en place cet outil-là ou n'importe quel outil, il faut qu'ils commencent à comprendre comment leur cerveau y fonctionne. C'est-à-dire, quel type de pensées, d'émotions, de sensations ils ont en permanence? Est-ce qu'ils en ont beaucoup? Est-ce qu'ils ont des pensées récurrentes qui les paralysent ou au contraire des pensées positives? Est-ce qu'ils sont capables de les percevoir? Est-ce qu'ils se déconcentrent facilement? Est-ce qu'ils se reconcentrent tout aussi facilement? Ça, c'est des process qui, parfois, ce qu'on appelle globalement la lecture de soi, le dialogue interne et l'intelligence émotionnelle, ça peut prendre du temps pour certains. Tu peux pas appliquer un outil si tu sais pas quelle est la cause du problème, en fait, ouais. Tu vois, et tu as des gens qui sont submergés par plein de choses et qui n'arrivent pas à avoir le mode d'emploi. Ceci étant dit, effectivement, tu peux construire très rapidement une petite routine de visualisation avec d'abord prise de conscience de tes sensations du moment, par exemple sur le process des cinq sens, là tu vois, tu te ressens, tu sens, tu essayes de trouver quelles sont les sensations du moment à l'instant T. Derrière, tu viens y associer différents états émotionnels, évidemment tu vas venir mettre des émotions évidemment plutôt positive, recréer des pensées positives, y associer au contexte de ton entraînement ou de ce que tu as à faire, de ta compète. Et puis derrière, tu lances toi, ta visualisation sur de la futurisation, c'est-à-dire sur la préparation de ton action, l'anticipation de ton contexte pour commencer à mémoriser, à répéter ce que tu as à faire. Tu vois, donc sensation, émotion, futurisation. Déjà, tu peux le faire de manière très très courte sur une, deux ou trois minutes.
Ok, donc là on parle vraiment juste avant la course. Hein.
On est juste avant la course, ça peut être compacté sur quelques secondes.
Ouais.
Avec la plupart des sportifs, ces temps forts de visualisation pour qu'ils apportent énormément, on les inclut dans une routine préparatoire à quelques minutes ou à quelques heures ou dizaines de minutes de l'échéance, si tu veux. Mais on a une dernière routine de visualisation avec Gabriel quand il est rentré sur la piste et qu'il va se mettre sous l'ordre du starter. Hein.
Ouais, parce que ça, c'est un stress particulier. Il nous avait raconté d'ailleurs toute sa routine jusqu'au coup, au coup de pistolet, quoi, au moment où la course part. Ça, c'était passionnant à écouter. Est-ce qu'on peut le pratiquer aussi la veille? Parce que c'est vrai qu'on est souvent stressé la veille d'une grande compétition, notamment avant un marathon. On peut se visualiser, c'est important de faire ça aussi, s'imaginer comme ça, en train de, d'être très fort sur le parcours et d'être en plein dans son objectif.
Bien sûr, tu peux j'ai envie de te dire partout, tout le temps. Et tu sais bien que tu as des gens qui, c'est même 6 mois avant l'échéance, qui commencent à stresser. Ouais. Et donc, en fait, il s'agit de repérer chez le sportif à quel moment, pour quelle raison et dans quelle situation ils ont ces petits pics de stress, ici on va les appeler le stress négatif, qu'ils ont du mal à gérer, et la visualisation, mais ça peut être orienté sur autre chose que la course qui arrive, est un moyen de soit de s'échapper, soit de se détendre, soit au contraire de se focaliser sur ce qu'il y a à faire. Hein. L'imagerie de détente est quelque chose qu'on pratique énormément, où les gens, à un moment donné, ils ont besoin de switcher, justement, penser à la course, penser à l'entraînement et tout ce que ça implique. C'est trop lourd à porter et la visualisation permet également et heureusement d'aller vers des imageries de détente, de relaxation pour pouvoir gérer tout ce qui va arriver. Quoi.
Johan, est-ce que toi tu fais un peu de projection les veilles de course? Projection sur le parcours, comment tu fonctionnes à ce niveau-là?
Ouais, que ce soit sur toutes les courses, que ce soit un marathon ou un cross ou les choses comme ça, ouais. Je repère quand même le parcours, je sais où sont les ravitaillements, j'ai repéré les zones un peu, les passages difficiles, et j'essaye de m'imaginer dans quel état je serai à ce moment-là, tu vois. Tout est calculé. La veille de la course, ouais, c'est rare que j'arrive sur une compétition sans savoir ce que je vais faire à quel moment, tu vois.
Okay.
Repérer le parcours, pour moi, c'est quand même, sur le marathon, c'est quand même essentiel. Je le fais souvent en vélo ou en trottinette, ou même si je peux pas repérer des fois les 42 km, je repère au minimum les zones que je sais qui seront délicates, tu vois, peut-être pas les premiers kilos, mais à partir du le deuxième semi, des choses comme ça. Et voilà, la veille, tu y penses, tu repenses à ta routine. C'est vrai que bah on a tous nos façons de procéder, nos différents process, comme le dit Amaury, mais ouais, bien évidemment, je repense à tout ce que j'ai mis en place pour être là le jour J où est-ce que je voulais être, et puis à rester focus sur le lendemain. Ouais.
Il y a une clé essentielle, Amaury et Yodu, et là on peut parler du 800 mètres, du 1500 et même jusqu'au marathon, voire jusqu'au trail, c'est de segmenter ses courses en fait. Ça c'est une bonne clé pour progresser et pour se projeter sur l'objectif qui arrive, Amaury.
Alors ça c'est tout à fait un bon conseil, un bon tips pour les coureurs par exemple, parce que je prends mon exemple personnel, j'ai couru l'UTMB en 2008 et heureusement avec Vincent Delbar, début du mois de juillet, j'avais fait la Rocco. Et la Rocco il l'avait organisée en 4x40. C'est facile. Eh ben, figure-toi que fin août, je partais pas pour courir 160 km, je partais pour courir 4x40. Et c'est plus du tout, ça n'a rien à voir. Évidemment, si tu dis à ton cerveau, je suis parti à 160 pour 160, ça va commencer à être complexe. Par contre, si tu dis, je fais le premier marathon, puis le deuxième, puis le troisième, j'ai des bases vides, des bases de ressourcing, des ravitaux, c'est déjà plus la même chose. Alors oui, c'est particulièrement valable pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui abordent des courses qui vont commencer à s'approcher du semi, etc.
Eh oui, moi j'ai le souvenir, mais c'est peut-être toi Yodu qui m'avait dit que tu découpais tes marathons en 4, ouais, c'est ça.
Pareil, ouais, 4x10.
Et voilà.
Et le premier 10, ça déroule. Le deuxième, tranquillement, on regarde où est-ce qu'on en est, on fait un peu l'état des lieux, on gère bien ses ravitaux. Le 20 au 30, celui-là, il est important parce que là, il ne faut rien louper, c'est là où il faut serrer les dents. Et du 30 au 40, là, il faut débrancher le cerveau et là, tu finis tout ce que tu peux.
Mais
c'est à peu près ça.
Dis-moi, Amaury, comment tu as pu courir l'UTMB alors que la saison de Ligue 1 avait repris? Comment tu t'es organisé? T'as pris un congé sans solde?
Non, j'étais pas en Ligue 1 à cette époque-là. Et pour l'anecdote, j'étais en National en 3e division et derrière l'UTMB, j'ai dû m'arrêter 6 semaines pour récupérer. Et les gens de la direction technique de l'arbitrage n'étaient pas très contents.
Ah, excellent, c'est une bonne anecdote. Donc, on parle de tout ça, les bons conseils pour réussir. Est-ce que tu as des types d'exercices, peut-être pas quotidiens, mais peut-être hebdomadaires, qu'on peut réaliser comme ça pour essayer de progresser sur cet aspect de la course qui est souvent négligé, Amaury?
Alors, en fait, là, tu ouvres la question du pourquoi faire de la visualisation, voilà. Quel est l'objet,
exactement.
À quoi tu peux t'en servir, tu vois. Et on sait très bien, c'est très répertorié, très étudié, que tu peux avoir un objectif technique sur un apprentissage d'un geste X ou Y, une répétition technique que tu vas refaire à l'infini. Tu pourrais même, et c'est très bien utilisé par certains sportifs, refaire un geste raté que tu veux réussir. Ça, je pense au tennisman, par exemple, qui en visualisation travaille un coup droit et un revers qu'ils ont foiré et ils le répètent. Ils répètent le geste juste. Donc, tu vois, c'est ce geste technique. Pour les coureurs, ça va être un placement. Ça va être un placement de bassin, le passage des appuis, etc., etc., tu vois. Ce versant technique pour les coureurs de haies, évidemment, c'est fondamental. Donc, ce versant technique, tu peux le travailler en visualisation totalement. Deuxièmement, tu peux avoir le versant tactique, tes stratégies de course, comme Yodu vient d'en parler. Là, tu vas travailler sur une visualisation de routine, d'image d'activation, comme il l'a dit, le deuxième 10 km, le troisième qui est différent. Tu peux préparer ta compète, tes stratégies, l'adversité que tu vas rencontrer. Tout ça a comme objectif, si tu veux, d'anticiper un parcours, un scénario, comme Yodu vient de le dire.
Ouais.
Et puis, tu as une troisième chose que les sportifs font énormément en visualisation, je l'ai dit avec Gabriel, c'est d'utiliser cet outil-là quand ils sont blessés pour récupérer, pour réduire le temps de rééducation. C'est simplement le fait que de ne pas se déconnecter du terrain, alors même qu'ils ne peuvent pas y être, tout simplement. Ça marche très, très bien, cette imprégnation de ton entraînement, alors que tu peux pas t'entraîner, parce qu'on a oublié de dire au tout démarrage, Pourquoi ça marche? Ça marche, toutes les études le montrent, tout simplement, pour dire ça de manière un peu vulgarisée, parce que ton cerveau ne fait quasiment pas la différence entre l'expérience que tu es en train de construire dans ta tête et l'expérience que tu réaliserais vraiment sur un terrain. Les aires corticales qui sont allumées dans ton cerveau sont quasiment exactement les mêmes, ce qui prouve que ton cerveau travaille de la même manière en visualisation que si tu faisais vraiment le geste. En fait.
Et ça, c'est fou ce que tu racontes, je l'ai lu effectivement dans une étude, notamment aux États-Unis, ils avaient mené une étude des chercheurs à Chicago auprès de basketteurs qui s'étaient entraînés au lancer franc. T'as vu ça aussi?
J'ai vu passer ça. Ouais.
Alors, il y avait trois groupes pour réaliser ce test. Il y a un groupe qui n'a rien travaillé du tout pendant un mois et demi. Il y a un groupe qui a travaillé uniquement le geste, en fait, le geste de travailler sans le lancer franc. Et un autre groupe, un dernier groupe qui a travaillé uniquement l'aspect mental du lancer franc. Et ils se sont aperçus les progressions, les statistiques de progression après un mois et demi donc, d'études. Le premier groupe, évidemment, n'a pas progressé. Le deuxième groupe a progressé au lancer franc en moyenne de 24%. Et le groupe qui s'est servi uniquement du mental et non pas du geste et de l'aspect technique de la chose a progressé de 23%. Ce qui voulait dire quand même l'importance du mental dans ce type de geste spécifique, ce que tu nous disais, mais ce qui est totalement applicable en fait à la course à pied. C'est pour ça qu'on se dit, on peut le percevoir. Tu vois, Amaury, là, tu me parlais de champion, tu me parlais de tactique, tu me parlais de tout ça. Moi qui suis un coureur amateur, je me dis, ça peut me servir à moi, tout simplement, égoïstement, pour aller chercher des gains marginaux sur mes courses, tu vois. Déjà, mieux appréhender l'événement, et puis aller améliorer des performances qui sont moyennes, mais qui, à mon niveau, peuvent encore... je peux encore gratter quelques secondes ou quelques minutes sur différents objectifs, tu vois.
Tu as bien raison. C'est un outil que tu peux utiliser sur le fond pour t'entraîner et l'avoir à disposition tout le temps, ou de manière ultra ponctuelle, une fois que tu as fait ce travail d'entraînement, hein, évidemment, pour aller gagner ce petit supplément d'énergie, cette maîtrise émotionnelle supplémentaire quand tu prends le mur du kilomètre auquel tu t'attendais à prendre le mur, ce petit gain supplémentaire de maîtrise de toi, de gestion du stress et de visualisation positive qui va te faire gagner les quelques secondes par rapport à ton objectif, effectivement. Oui.
Alors nous, on a des rituels, tu sais, dans RMC Running, mais là, ça s'y prête totalement. Nous, on démarre toujours par la question « Pourquoi tu cours ?» et on la pose à tout le monde, hein, athlète pro ou amateur. Mais ça, c'est une des clés mentales, et notamment au-delà de la visualisation, c'est à partir du moment où on sait pourquoi on s'élance sur un objectif, bah, ça nous aide à trouver la motivation et être dans le bon mood, entre guillemets, quoi.
Super méthodologie. Tu utilises une méthodologie de n'importe quel intervenant ou accompagnant qui est là pour aider les autres. Hein. Ça pourrait être l'entraîneur, ça pourrait être le prépa mental, le prépa physique, qui tu veux. C'est-à-dire que face aux sportifs, d'abord, c'est un travail dans le profilage, la phase dont je te parlais tout à l'heure, tu vas quand même essayer d'aller voir quelles sont les motivations profondes des mecs. Parce que tu peux t'apercevoir que les mecs, ils courent pour effectivement un objectif identifié, celui dont ils parlent tout le temps. Et puis finalement, quand tu grattes un peu derrière la peinture, sous la peinture, tu vas t'apercevoir que les mecs, ils courent parce que depuis qu'ils sont petits, c'est pour fuir autre chose. Ça a été la peur de quelque chose. C'était une mauvaise expérience dans un autre sport. Ça a été peut-être pour projeter la carrière de ses parents qui n'ont jamais pu l'avoir. Et ça, c'est très problématique. Ces motivations profondes, tu les interroges effectivement. Donc la question, le pourquoi tu cours, elle est très intéressante.
On continuera alors du coup à la poser. Non, mais alors, et là, ça me fait penser à Johan tout de suite parce que Johan a connu deux années compliquées là, depuis quelques mois, parce qu'il y a eu cette blessure, ensuite il y a eu la course à la qualification olympique, et lorsque malheureusement il y a eu la mauvaise expérience à Séville, je me rappelle très bien de ce que tu m'as dit, Johan. Tu m'as dit: maintenant je veux courir pour me faire plaisir, aller chercher moi des chronos qui me parlent, plus m'imposer une allure à moi pour aller chercher un chrono qui est demandé par une fédé ou pour se qualifier quelque part. Donc les motivations changent aussi, et toi, ça va peut-être aussi t'aider à repartir, relancer ta carrière et à repartir sur un nouveau cycle, quoi.
Ouais, bah c'est ça, le pourquoi tu cours. Effectivement, ces derniers temps, bah là, je courais après un rêve, après un objectif, à savoir les Jeux Olympiques de Paris. Mais c'est vrai que je ne courais plus pour moi, tu vois, pour me faire plaisir, aller sur des 10 bornes, aller sur des semis, aller sur des objectifs intermédiaires. Dans des courses un peu au niveau en dessous de ce que j'ai pu prétendre l'année dernière. Donc effectivement, ouais, c'est quelque chose que j'ai ressenti le besoin direct après l'échec de Séville, en me disant bon ben voilà, tu courais après un rêve, tu l'as pas atteint. Bah maintenant, repars sur autre chose, sur un nouveau défi, où là, tu cours pour toi, tu vois, juste pour essayer de battre mes records, pour me faire plaisir, pour aller sur des 10 kills comme ça, des semis, de recourir, quoi, tout simplement. Et plus se mettre la pression de ce résultat et de cet objectif que tout le monde voulait pour moi, mes parents, ma famille, mon coach, enfin, tu vois, moi, et moi le premier. Hein. Non, mais là, au moins, la pression, elle est plus du tout externe. Que je fasse 28 minutes aux 10 km de Tartampion ou 29, ça va pas changer la vie de mon coach, de mes parents, de mes sponsors ou quoi que ce soit. Ça va juste changer mon rapport à la course à pied.
Ouais. Ah, c'est sûr. C'est des approches totalement différentes. Pour revenir à la visualisation, Amaury, est-ce que tu as des exemples concrets d'exercices qu'on peut tenter de travailler chez soi pour essayer d'améliorer cet aspect mental de la course?
Alors, je vais t'en donner deux. Un qui est quasiment une anecdote et une boutade, mais en fait qui nous sert. Tu sais que tu as des gens qui, sur un continuum de « j'arrive à produire des images, quelles qu'elles soient, hein, visuelles, auditives, etc. » ou « j'en suis submergé par ces images », eh bien, on appelle ça l'aphantasie, c'est-à-dire l'incapacité à produire des images. Ça arrive, il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas. Ça s'évalue. Et chez d'autres, c'est l'hyperfantasie, c'est-à-dire qu'on a un cerveau hyper créatif, hyper productif. T'imagines qu'on dit de ça généralement des artistes, des créateurs, des scénaristes, etc. Mais chez le commun des mortels, ça se mesure très très bien. Déjà, premier outil pour savoir. Mais dans une grande moyenne, tout le monde est capable. Et donc, le premier test que généralement tu peux faire pour savoir si ça fonctionne chez toi plutôt bien, tu t'assois, tu te mets dans un petit état de détente avec des petites respirations apaisantes pendant une petite minute, et puis tu commences à imaginer un objet de ton quotidien, quel qu'il soit, celui que tu connais le mieux. Et ce qui va être sympa, c'est que tu travailles pendant une à deux minutes de voir cet objet-là. Tu vas le voir, tu vas changer sa couleur, tu vas le faire tourner sur lui-même, tu vas le voir de haut, de bas, de dos, etc. etc. Tu vas le visualiser, le faire tourner, l'arrêter, le poser, le mettre au sol, etc., changer sa forme, son contraste, sa lumière. Donc déjà, ce petit exercice en une ou deux minutes, avec un objet de ton quotidien, tu vas t'apercevoir que très facilement, tu peux accéder à l'imagerie mentale, ici la visualisation. Le deuxième petit exercice, et je pense qu'il est utile chez chacun d'entre nous, parce que la vie est ainsi faite actuellement, qu'on a besoin de petits moments de détente, de petits moments où on va couper le stress derrière son écran, parce qu'on est au boulot toute la journée. C'est que tu vas faire la même chose, te mettre dans un petit état de détente respiratoire, et tu vas t'imaginer dans ta safe place, dans ton endroit agréable, positif, protecteur. Ça peut être la montagne, ça peut être la mer chez certains, ça peut être son salon, ça peut être en présence d'un animal ou tout seul, dans le bruit ou dans le silence. Et cette safe place, s'y projeter pendant quelques instants ou pendant quelques minutes, comme un moment pour soi qui va te régénérer, tu vois. Donc, petit objet que tu fais tourner, l'objet que tu connais par cœur, et si c'est ton téléphone, tu fermes les yeux et t'essayes de le faire comme si tu l'avais dans la main et de le voir sous toutes ses coutures. Ouais. Et puis l'imagerie de détente est quand même quelque chose qui est, à mon avis, à utiliser pour les gens au quotidien.
Non, je partais plutôt sur ma gourde ou ma montre running, tu vois.
Parfait, ça va
sur
aussi.
Sur un magret de canard, moi.
Voilà. Non, mais et à quelle fréquence on peut travailler ça alors pour essayer de progresser dans cet aspect de la préparation?
Alors, j'ai envie de te dire que ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous faire du mal au cerveau, d'accord? On est en train
on
de
claquer,
d'étudier.
On ne va pas te claquer.
Voilà, on a beaucoup de ces questions-là, hein, sur la charge mentale que c'est représente bon, la prépa mentale, ici un outil comme la visualisation.
C'est une élongation
pour savoir
du cerveau. Là.
On a des indicateurs aujourd'hui qui arrivent sur, par exemple, quand tu es surchargé mentalement, tu vas observer que tu as une performance motrice ou technique qui se dégrade, par exemple. Ça, n'importe qui a pu l'observer, évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire... Que si tu le fais quand tu en as besoin, quand tu en ressens le moment et que tu sais que tu peux t'octroyer une, deux ou trois minutes, ça devient tout à fait intéressant. Et si les gens qui nous écoutent ne le font jamais, commencez par le faire une fois par jour, deux, trois fois par semaine, ce sera déjà très bien.
Et toi qui as de l'expérience, est-ce qu'on en ressent les effets après alors?
Alors, c'est totalement immédiat. Je vais te donner une anecdote avec Gabriel. Hein, c'est que très régulièrement, quand on fait de la séance d'imagerie mentale tous les deux, qu'il est assis sur une chaise, que je le projette dans une ou deux de ses courses ou avec des problématiques très bien identifiées, il a du mal à garder l'immobilité, hein. Il commence à trépigner, hein. Je le vois comme s'il était en train de courir, hein. Il peut te le décrire lui-même, hein. Il me dit, mais là, c'est incroyable, hein, l'impact que ça a sur lui. Il se projette énormément, si tu veux, parce qu'on a quelque chose de très précis, et évidemment qu'il connaît très bien, qu'il ne découvre pas et qu'il connaît très bien. Et donc, ça marche très bien. Par contre, cet outil-là, comme tous les outils en prépa mentale, ouais, sont des outils qui doivent s'entraîner pour marcher. C'est les mêmes problématiques que la prépa physique, que la prépa technique, le geste technique, etc.
Et est-ce qu'on peut en devenir accro quand on le pratique trop?
L'objectif, c'est d'avoir dans sa boîte à outils plusieurs outils qui peuvent te servir et pas forcément un seul outil duquel tu vas être dépendant. En même temps, cet outil-là, comme je te l'ai dit, la visualisation, ton cerveau projette des pensées, des émotions, des sensations en permanence du moment où tu n'es pas dans le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Et même le sommeil paradoxal, on pourrait en reparler. Donc, à partir du moment où, de toute façon, tu ne peux empêcher ton cerveau de produire des pensées, des émotions, des sensations, autant que tu puisses arriver, celles qui sont conscientes, à les diriger vers un objectif intéressant pour toi. Donc, c'est pas très dangereux. Et même si tu le fais de plus en plus, avant d'en devenir accro, ce sera d'abord être accro positivement à quelque chose qui va orienter ton action, donc c'est plutôt positif.
Bon, merci Amaury, tu as été parfait, tu restes là, on passe au bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et on parle d'une marque de référence dans le milieu des montres GPS, Garmin à l'honneur avec la nouvelle Forerunner 165, une amie d'RMC Running de retour, Mélanie Debon, qui est chef de produit chez Garmin. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Et là, je réagis tout de suite parce que Amaury en a parlé, mais la magie de ces Garmin, c'est qu'on peut évaluer le temps de sommeil profond, sommeil paradoxal, etc. Quoi. On a un rapport quotidien qui nous est fait. Comme ça, on peut savoir si on s'est projeté sur de l'imagerie mentale. Quoi. On a vraiment ces données quotidiennes. C'est la chance de ces montres, Mélanie.
Effectivement, le gros avantage aujourd'hui sur les montres Garmin, c'est qu'avec l'autonomie que nous, on positionne sur ces produits, parce qu'on se rend compte qu'il y a un réel besoin aussi, que ce soit pendant la course, avant et après l'entraînement également, ça permet de suivre finalement son bien-être, sa forme et sa santé au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et d'avoir du coup des données de sommeil, des données de stress et des données d'activité plus générales qui permettent finalement de prendre les bonnes décisions quant à son entraînement au quotidien.
Tu sais que c'est quelque chose que je connais parce que je porte une Garmin au quotidien actuellement et tu es obsédé par le score de sommeil. Hein. Tu regardes, tu dis ah j'ai que 75.
Tu veux toujours faire mieux.
Ah là j'ai eu 91 quand même, tiens, pas mal, je vais être en forme. C'est vrai que ça a ce côté un peu addictif après, Mélanie.
On a besoin d'avoir tous la meilleure note possible tous les soirs, effectivement. C'est pareil sur la VO2 Max, c'est pareil sur les pas dans la journée.
Ouais, c'est ça.
On ne s'arrête plus.
Bon, parle-nous un peu de Garmin en global. Les enjeux de l'année, vous avez un gros moment pour vous, une grosse échéance qui arrive avec le Marathon de Paris. Quelles sont les grandes lignes? Vous développez vraiment le bien-être quotidien et avec cet esprit de faire des montres, un vrai coach à part entière de l'athlète, en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils qui sont donnés grâce à la montre.
Oui, complètement. Je vais parler en particulier du running parce que finalement, aujourd'hui, on travaille quand même sur beaucoup, beaucoup de secteurs différents.
Ouais.
Je pense que là, le running cette année, notamment avec le lancement de la Forerunner 165, l'idée, c'est d'aller accompagner tous les utilisateurs et en particulier un petit peu plus les utilisateurs, entre guillemets, débutants, mm-hmm, parce qu'on accompagne depuis des années, on le fait très bien, les aguerris et les adeptes et les accros au running. Aujourd'hui, l'idée avec la 165, c'est vraiment d'aller accompagner finalement ces nouveaux runners ou ces joggeurs qui passent à runner dans leur quotidien et dans leur découverte de la pratique.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des conseils d'entraînement qui sont donnés, il y a des suggestions, parce que ça existe déjà sur d'autres modèles.
Ouais.
C'est comme ça que vous les accompagnez?
Oui, ouais, l'idée par rapport... Alors, je vais prendre en repère la Forerunner 55, qui est finalement l'autre modèle que l'on a en entrée de gamme, qui est une très bonne première montre pour des coureurs qui se mettent un peu plus sérieusement à la pratique. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, en passant à la Forerunner 165, déjà, quelque chose qu'on établit aussi de plus en plus, nous, sur nos montres, c'est le passage à l'écran AMOLED qui permet d'avoir une lisibilité, une définition qui est juste incroyable sur un écran qui fait 1,2 pouces. Donc on gagne finalement 1 mm de taille de boîtier, mais on gagne 0,2 pouces de lisibilité d'écran. Donc c'est un confort de lecture déjà qui est assez incroyable. En parallèle, on a rajouté aussi l'altimètre barométrique, ce qui permet finalement d'avoir un petit peu plus d'informations en termes de dénivelé sur notre pratique. On inclut du coup en parallèle le trail running aussi, ce qui permet d'aller découvrir potentiellement d'autres pratiques. Mais au-delà de ça, effectivement, on accompagne les utilisateurs dans leur pratique de la course à pied au quotidien avec des suggestions quotidiennes d'entraînement qui gagnent un petit peu en précision par rapport à la Forerunner 55, puisqu'aujourd'hui, on a une projection sur 7 jours dans des entraînements qui, finalement, à terme, donne la possibilité à l'utilisateur de s'améliorer sur le long terme ou pour un objectif de course en particulier. Mmh. Ça apparaît, c'est une nouveauté du coup sur la 165, c'est qu'on peut se rentrer un événement dans notre calendrier en disant voilà, j'ai le marathon dans un mois, dans un peu moins d'un mois maintenant. Et en fonction de ça, ma montre va me donner des entraînements au quotidien pour aller atteindre l'objectif que je me suis fixé sur cette course à cet instant-là.
Ok, donc il y a tout un travail comme ça qu'on peut, un travail préparatoire, comme ça la montre nous aide à atteindre les objectifs. Tu parlais d'autres activités, c'est-à-dire qu'avec ce modèle particulier, la Forerunner 165, on peut pratiquer quel type de sport ? Est-ce qu'on peut faire du trail ? Oui, mais quelles sont les autres disciplines ?
On peut faire, alors disons qu'on a une base, un socle finalement, nous, sur les sports intégrés qu'on garde dans la quasi-totalité de nos montres aujourd'hui. On a la marche, le running bien évidemment, le vélo. On va avoir des activités aussi en intérieur avec la musculation, le cardio, le yoga, le pilates. On a ajouté du coup avec l'ajout de l'altimètre barométrique des activités comme la rando ou le trail running qui sont des activités dans lesquelles finalement le profil altimétrique est hyper important. On a ajouté aussi la natation en eau libre, ce qui permettrait potentiellement aussi pour des personnes qui, en achetant finalement la Forerunner 165, ne se projettent à court terme que sur de la course à pied, de se dire, bah, dans 2 ans, dans 3 ans, ma pratique a évolué, j'ai fait mes 10K, mon semi, j'ai pas forcément envie de m'orienter vers un marathon, mais peut-être de m'orienter sur du pluridisciplinaire avec le triathlon, du coup en prenant finalement la pratique par les sports séparément, avant d'aller après évoluer sur d'autres mondes qui permettent du coup la pratique du triathlon avec les transitions.
Il y a plusieurs enjeux sur ce type de montre quand on veut les choisir. Il y a déjà l'autonomie. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? L'autonomie en activité et hors activité, combien de temps avant de la recharger ?
Alors, la Forerunner 165, on a 11 jours d'autonomie en mode connecté, donc quand vous la portez au quotidien finalement pour dormir, pour marcher dans la journée, etc. Et 19 heures en mode GPS. L'idée globalement, c'est qu'on peut s'entraîner 3 fois par semaine avec et on la garde toute la semaine au poignet, y compris la nuit, sans avoir à la recharger.
Ok, le prix aussi c'est important parce qu'on le disait, c'est une montre qui s'adresse à des coureurs entre guillemets débutants ou pas des coureurs très réguliers. Combien elle coûte cette montre alors ?
Aujourd'hui, on a 2 options sur la Forerunner 165. On a la version non musique qui va être la mieux positionnée en termes de prix à 279 € et la version musique à 329 €. Je me permets de faire le petit topo du coup sur la différence entre les deux.
Ouais.
Mais l'idée, c'est que dans une montre non musique chez Garmin, on va avoir la commande de la musique du téléphone. Donc, il y aura un écran qui va apparaître. On va pouvoir faire play, pause, avancer, reculer au niveau de la chanson sur une playlist qu'on aura lancée depuis le téléphone. Avec les éditions musique, l'idée, c'est qu'on va pouvoir directement stocker de la musique à l'intérieur de la montre, avec des playlists Spotify, Deezer ou Amazon, par exemple, et pouvoir se séparer du téléphone pour aller courir avec des écouteurs Bluetooth et la montre uniquement.
Et voilà, vous vous coupez du monde, vous téléchargez le dernier épisode
ouais,
d'RMC Running,
c'est
et hop,
de la
vous
musique.
Lancez sur la
les podcasts fonctionnent aussi.
Ouais, bien sûr, ça marche. Mais alors, tu sais, on rigole, mais il y a plein de coureurs qui nous écoutent comme ça, sur leur sortie, en téléchargeant l'épisode sur la montre. On a eu plusieurs témoignages et c'est assez marrant. On coupe le téléphone, mais on reste connecté à RMC Running.
Ah, on est beaucoup de collègues à écouter des podcasts aussi pendant le concours, pendant qu'on fait du vélo, ça se fait beaucoup.
Eh ben voilà. Mélanie, où est-ce qu'on trouve la montre sur les sites Garmin, chez différents revendeurs ?
Sur les sites Garmin, pour la version musique, on l'a réservée entre guillemets à tous nos réseaux sport. Donc que ce soit le petit indépendant chez qui vous avez l'habitude d'aller, que ce soit les gros réseaux sport qu'on connaît comme Decathlon, Intersport, etc. Et les non-musiques, on les a déployés à plus large échelle dans des réseaux un peu plus généralistes, Fnac, Darty, Boulanger, etc.
Ok, et ben voilà, toutes les infos, vous les avez. Merci Mélanie d'avoir été avec nous. On fait gagner un modèle de cette montre, la Garmin Forerunner 165. Donc n'hésitez pas, vous postulez sur nos réseaux sociaux, sur le club RMC Running, sur Strava, sur notre compte Instagram. Et le test d'écoute pour pouvoir participer justement à ce podcast. On a beaucoup parlé
ça me plaît,
avec Amaury Delerue. Il nous a parlé de son expérience personnelle En quelle année a-t-il fait l'UTMB ? Il l'a dit. Eh oui, il l'a dit, il fallait être attentif. Donc, ah oui. Réécoutez bien l'épisode. Il l'a dit, il était entraîneur de
national. Il a pas senti, il a fait 4 fois 40.
Voilà, il était arbitre national à l'époque. Il s'est fait secouer par la DTA après parce qu'il a été hors pot pendant 6 semaines. Donc voilà, c'est un bon test d'écoute. Merci.
Jamais
Mélanie.
J'aurais pensé que cette anecdote allait produire un jeu concours.
Et voilà, c'est la magie des RMC Running. Merci Mélanie, en tout cas, à bientôt.
Merci à vous, bonne journée.
Merci. Dans RMC Running. Et merci à Amaury, c'était passionnant de t'écouter pendant une heure. Tous tes conseils, toutes tes clés comme ça pour pratiquer la visualisation. On espère que ça pourra vous apporter et vous faire améliorer vos chronos, c'est le but.
Je peux donner deux petits tips pour
vas-y,
finir.
Vas-y, je t'en prie, avec plaisir.
Juste parce qu'on n'a pas parlé, c'est pour nos auditeurs qui veulent s'y lancer, vous avez toujours la possibilité de faire deux modalités de la visualisation interne. Vous voyez par vos yeux, c'est comme si vous aviez une GoPro sur le front, d'accord ? On voit ses mains, ses pieds et on est immergé. Ou alors de l'imagerie externe, c'est-à-dire en gros, s'il y avait une caméra qui vous filmait, qu'est-ce qu'elle verrait de vous, hein ? C'est le travail qu'on peut faire quand avec Gabriel, on regarde une de ses courses. Et puis, dernière chose très importante, essayez de visualiser si vous courez, que vous courez à la bonne vitesse. On appelle ça la chronométrie mentale. On court pas en accéléré ou au ralenti. Sinon, le cerveau étant tellement puissant qu'il pourrait interpréter et intégrer les différentes vitesses que vous visualisez. Donc, calez bien la vitesse 1, en tout cas à la fin, quand vous répétez.
Ok, bah ça c'est excellent.
C'est important. Ouais.
Mais c'est-à-dire que si je me visualise à la vitesse de Durand, je peux courir à la vitesse de Durand.
Exactement.
Ou ça marche pas?
c'est un peu plus complexe que ça, mais en tout cas... tu pourrais déformer ta foulée à long terme avec un gros entraînement.
Non, merci, hein, je vais me blesser au bout d'une séance. Bon, merci Amaury, beaucoup de conseils. Et on rappelle ton site, hein, c'est Optimum Performance. Hein, voilà, si vous êtes intéressé.
Super, merci pour ça. Merci pour votre invitation.
Des séances de coaching et tu reviens dès qu'on parle de préparation mentale. C'était passionnant. Tu es le bienvenu chez RMC Running. Et ouais, c'est toujours cette tradition pour terminer. La musique que tu écoutes quand tu fais du sport. Quand cette entorse au genou sera passée, toi tu écoutes Kezia Jones, Rhythm is Love, ça donne ça. Voilà. Et on n'est pas bien, Johan, au bord de l'Atlantique là.
Petit rythme sympa.
Voilà. Tu veux pas aller faire du surf avec Amaury un peu ?
Si, là je me vois bien avec ma chemise hawaïenne.
Et voilà, tu vois. On y est là, c'est bon. Bon, Amaury, merci beaucoup. Merci à toi aussi, Johan Durand, et toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Because all of the sexual things we do in my mind, I trust you to make them all colorful.